Bonjour à tous, vous écoutez Fréquence Mistral. C'est une émission spéciale que nous vous proposons. La guerre en Ukraine fait rage et pour nous informer, des centaines de journalistes et photographes sont sur place pour rendre compte chaque jour de la situation. Leurs articles, leurs images, leurs vidéos, nous les connaissons et leurs informations, au-delà de l'horreur et de l'effroi qu'elles nous inspirent, sont le fruit de la présence de professionnels sur le terrain des combats. Ils nous informent, mais que savons-nous de ces reporters ? Comment sont-ils organisés ? Comment gèrent-ils le risque ? Sont-ils préparés à voir et assister à ces situations dramatiques ? Comment est assurée la liaison avec leurs organes et agences de presse ? Ce travail des journalistes sur les terres de conflit, c'est le thème de cette émission où j'ai le plaisir d'accueillir deux reporters de guerre qui vivent à Fort-Calquier et que je remercie bien sûr d'être mes invités. Et présent donc en plateau Louaï Barakat. Bonjour Louaï.
Bonjour.
Et puis également présent à ses côtés, Jacques Burlot. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Vous êtes, je précise, d'une autre génération que Louaï. Jacques, vous avez couvert de nombreux conflits, Vietnam, Liban, Israël ou encore Salvador. Et puis vous avez guidé et aidé Louaï Barakat au jour le jour pour son voyage en Ukraine. C'est donc une conversation croisée que nous allons avoir. Louaï, vous avez passé 5 semaines très exactement en Ukraine pour l'agence SIPA Press. Ma première question, alors je précise aussi qu'il nous sera difficile, il nous est difficile de pratiquer le vouvoiement que la profession nous demande et qu'il pourra nous arriver de nous tutoyer comme nous le faisons tous les trois sur le plateau depuis des années. Donc toutes nos excuses si jamais vous entendez un petit tu par-ci, par-là. Donc Louaï, vous avez été en Ukraine pendant 5 semaines. À quel endroit étiez-vous ?
Alors, j'étais à Kiev, Boucha, Erpen, Odessa, Mykolaiv et Lviv. 7 endroits différents.
Donc plusieurs endroits qu'on connaît bien maintenant, puisqu'on voit généralement sur nos écrans et tous les reportages qu'on lit, ces villes qui nous sont présentes. L'Ukraine est un pays détruit ?
Oui.
Vous avez fait des photos de ces ruines ?
Alors, j'arrivais à Lviv, je commençais à faire des contacts avec des gens là-bas pour prendre des contacts et j'étais en contact toujours avec Jacques pour savoir c'est quoi les plus importants. C'est quoi l'endroit il est pas très couvert journalistiquement et c'était Odessa, Mykolaiv et du coup je prends des contacts à Lviv pour aller à Odessa et je couvre Odessa et Mykolaiv 3 semaines et c'est vrai c'était vraiment il y a très peu de journalistes à Odessa parce que après j'ai bougé j'ai parti à Kiev et c'était pas le nombre de journalistes, c'était plus beaucoup de journalistes à Kiev et Boucha, Erpin.
On va reparler bien sûr des rapports que vous entretenez entre journalistes sur les terrains de conflit. Comment vous êtes organisé, Louaï, et vous avez préparé ce voyage en Ukraine ?
Alors, on a préparé le voyage avec SIPA Press. Et moi et Jacques, on a resté plusieurs jours avant que je parte en Ukraine de garder la carte pour que je comprenne la carte, le sud, le nord, l'ouest, et où Odessa et où ils vivent.
Pour bien repérer les endroits,
exactement.
C'est ça ?
Exactement. Et aussi garder comment on va déplacer sur place parce que on sait très bien, on ne peut pas louer une voiture pendant la guerre. Et c'était pas simple de déplacer un endroit à l'autre parce qu'il y a beaucoup de bouchons, il y a beaucoup de gens, ils partent de chez eux et ils changent des endroits. Et ce n'était pas assez facile. Et après, les préparations pour avoir les papiers, pour avoir une accréditation, pour travailler sur les terrains tranquillement. Et c'était pas facile aussi parce que aujourd'hui, l'Ukraine, elle a reçu beaucoup de demandes de journalistes. Si on parle de combien de journalistes aujourd'hui en Ukraine, c'est à peu près 3200 journalistes. Et du coup, c'est beaucoup de demandes. Et après, mais une semaine plus tard, j'ai reçu l'accréditation quand j'étais là-bas déjà. Et le départ, c'était Marseille, Pologne. Et après, j'ai traversé la frontière en train.
Les autorités ukrainiennes contrôlent les journalistes sur le territoire ?
Ça dépend. Quand tu fais un truc dans un endroit calme, on peut dire il y a rien, il se passe. Si tu photographies, par exemple, de places stratégiques, on peut dire il y a des polices et ils viennent vous dire qu'est-ce que vous faites ici, pourquoi vous prenez des photos. Sauf ils savent pas qui était journaliste et c'est important de garder un peu des archives dans le pays. Après, vous montrez la carte presse ou l'accréditation de l'armée et ils disent rien. Mais ils contrôlent beaucoup de journalistes parce qu'on n'oublie pas, aujourd'hui en Ukraine, il y a beaucoup de journalistes et ils travaillent pour la Russie et ils ont trouvé beaucoup d'espions russes en Ukraine.
Donc il faut préciser que Louaï, vous étiez en mission dans le territoire de l'Ukraine, pays ukrainien, et pas dans les territoires chapeautés par les Russes, plutôt envahis par les Russes, et, ou avec des pro-russes. Vous avez des équipements spéciaux quand vous êtes sur le territoire, sur le terrain, un casque, je suppose, un gilet pare-balles ?
Moi, je suis vraiment parti juste avec un sac à dos. Il y a juste un pantalon et un t-shirt en plus et mon appareil photo et mon matériel photo.
Et un brassard peut-être presse.
Ouais, un brassard presse et ma carte presse et tout. C'était vraiment 10 kilos. Mais sur le terrain, il y a un centre à Lviv pour Reporters sans frontières. Et ils donnent des équipements pour le journalisme, un gilet pare-balles et un casque. Mais il faut attendre parce que quand j'arrivais là-bas, c'était le début de la guerre et ils ont envoyé un camion, mais ça a pris 2 semaines pour arriver en Ukraine. Et après 2 semaines, j'allais récupérer le casque et le gilet pare-balles et pour bouger dans un endroit plus chaud et comme Mykolaiv.
Alors tout à l'heure, vous avez parlé des bouchons avec des personnes qui sont sur la route. Évidemment, ça n'a rien à voir avec Paris et un retour de week-end. Non, ce sont des exilés, des personnes qui fuient le territoire de l'Ukraine. Nous allons en reparler plus tard. Mais quels ont été, Louaï, pendant ces 5 semaines, vos contacts avec la population, avec l'armée, les autres journalistes, tous ces gens que vous avez rencontrés? Comment ça s'est passé?
On peut dire très bien, les Ukrainiens, ils sont vraiment très chaleureux, ils accueillent les gens, ils m'ont accueilli très très bien. Et même des fois, vraiment, j'habitais avec des civils chez eux, ils cuisinent pour moi, ils me disent, t'es vraiment venez nous aider. Nous aussi, on est là pour toi. C'est pas juste toi pour nous. On est là pour toi. Ils m'ont vraiment aidé. Ils sont très chaleureux. Et après, on n'oublie pas aussi la tristesse sur place, le regard des gens dans la rue, le choc d'un jour, lendemain, dans un pays comme l'Ukraine. Ça change tout. Dans 24 heures et les gens, il y a beaucoup de gens, ils te posent des questions, mais hier on était bien, pourquoi et le choc, il est resté plusieurs semaines, le regard des gens, le visage des gens dans la rue, c'était pas le visage des gens ils vivent leur vie normale comme avant, c'est vraiment différent.
avec des gens angoissés, je suppose, évidemment, des familles aussi angoissées. Vous avez fait beaucoup de photos, évidemment, pendant votre séjour, et notamment des photos en Ukraine et en Pologne, de ces réfugiés. C'est une histoire qui vous parle, ça, Louaï. Vous avez été vous-même réfugié en Syrie, et donc par la Turquie, puis la France.
Dans le premier jour, j'arrivais à Lviv. Je sors de train. Et avant, j'ai gardé tout ça sur la télé ou dans les réseaux sociaux. Mais là, j'arrivais sur place devant la vérité des choses. Et vraiment, j'ai pas sorti mon appareil photo pour faire des photos. Je veux. Devant moi, il y a beaucoup de journalistes et entre travailler, entre faire des vidéos, prendre des vidéos de des gens, ils partent de chez eux, ils prennent le train pour quitter l'Ukraine. Et il y a des gens, ils font des photos, des journalistes, ils font des photos. Et moi, j'étais vraiment 2-3 heures resté sur place, j'ai pas bougé, j'ai gardé juste qu'est-ce qui se passe et j'étais vraiment très triste. Et c'était les mêmes sentiments quand j'ai quitté Alep. Je les connais, ces sentiments, je l'ai vécu. Et c'est pour ça que j'étais pas envie de prendre des photos. C'était pas le moment. C'était pour moi, ça m'a rappelé plein de choses. Et ça manque, on peut dire, d'aller en Syrie, voir mes amis, voir ma famille. Et là, je vois les mêmes histoires. Aujourd'hui, il y a des gens, ils quittent, ils partent de chez eux avec juste un sac à dos, 3-4 habits dedans, et ils ne savent pas où ils vont et qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et je les connais, le futur.
Vous y êtes passé par là.
J'ai passé par là. Et quand j'ai discuté avec des familles, ils m'ont parlé qu'est-ce qui s'est passé dans leur village ou où ils habitaient. Et j'ai discuté avec une famille, ils sont à côté de Kiev, dans une ville qui s'appelle Somi. Et c'était la nuit de 24, ils sont quittés chez eux. Et il m'a parlé dès le premier soir, quand ils ont entendu le char entre prendre la ville et le combat avec l'armée ukrainienne. Et ça, c'est aussi, c'est des choses que je les connais. Quand il m'a parlé de ça, moi, j'attends avec eux le son de chat entrer dans le ville avec le son de combat entre les deux. Bah, et c'est pas juste, quelqu'un il écoute une histoire. Si quelqu'un il écoute une histoire, en plus, il a le sentiment des choses.
Et puis de revivre aussi une partie de votre vie, quoi. Ouais. Un peu particulier. Alors, vous avez parlé des rencontres avec des familles ukrainiennes ou avec d'autres journalistes. Vous avez besoin, dans ce cadre-là, d'interface. Ça peut être un traducteur. Et puis, dans le cadre de l'exercice de votre métier, ça peut être un fixeur. Expliquez-nous ce qu'est un fixeur.
Alors. Franchement, moi, j'ai pris un fixeur 2 fois et j'ai pas pris plus parce que on peut dire j'ai vraiment parti avec un sac à dos et 3 ronds dans le poche. J'étais pas assez d'argent pour prendre un fixeur sur place. C'est vrai, si tu prends un fixeur, tu vas accès à faire beaucoup de sujets différents, on peut dire, mais j'ai pas pris un fixeur plus que 2 jours. Et c'était à Poutcha parce que le fixeur, en fait, un fixeur, c'est si quelqu'un il a une accréditation avec l'armée, on peut dire, et il a toujours toujours en contact avec l'armée, l'hôpital et
Le pouvoir, en quelque sorte, de manière générale.
Il a des informations, en fait.
Et oui.
En plus, il a une voiture. En plus, il parle anglais et ukrainien. Du coup, il fait tout pour toi. Et toi, tu dis, par exemple, je veux y aller à l'hôpital, faire un sujet avec l'hôpital, avec les blessés. Bah, il a des contacts. Et vous pouvez dire aussi, je veux aller avec l'armée, faire un shooting dans les zones de combat. Bah, il a des contacts. C'est vrai, on paye pour lui, mais ce n'est pas pour rien qu'on paye. Mais c'est assez cher pour moi, c'est pour ça que je n'ai pas pris plus que 12 jours. Et après, le reste, vraiment, je fais des contacts avec les gens, avec des civils, et je me suis débrouillé. Le nombre de fois que je fais à pied pour ne pas prendre un taxi, pour économiser l'argent, pour rester plus longtemps là-bas, c'était aussi...
À la fois une question de liberté et puis une question d'instinct aussi, de dire, tiens, je vais aller là où mes pas vont me mener et pas forcément à l'endroit où il y aura 500 journalistes qui vont faire le même reportage sur le même sujet. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Évidemment, toutes vos photos, on les a vues et puis on les verra encore, je suppose. On verra aussi un diaporama sur le site de notre radio pour parler de tout ça. À vos côtés, Jacques Burlot. Alors Jacques, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, d'une autre génération de reporters de guerre. Vous travaillez à votre époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de photos numériques, etc. Mais vous avez accompagné et vous connaissez, vous suivez avec beaucoup d'attention, beaucoup d'affection, Louaïd, depuis Fort Calquier, vous l'avez accompagné pendant cette mission.
Absolument, on a préparé les choses ensemble, et après il y avait un compte-rendu tous les soirs du travail qu'il avait fait. Je lui transmettais un certain nombre d'informations sur le marché ici, et on sélectionnait les photos ensemble, il faisait une première sélection et moi une deuxième derrière pour qu'il puisse expédier directement par Internet à l'agence pour laquelle il travaillait.
Quand vous dites sur le marché, ce n'est pas le marché de Fort-Calquier, c'est autre chose. Expliquez-nous.
Marché international.
De l'image.
De ce sujet, en tout cas.
Oui.
Oui.
Vous avez vu de la manière... de quelle manière vous avez vu évoluer votre métier?
L'évolution, c'est la rapidité. Là, il est tous les soirs, il est obligé d'expédier ses images du jour, si elles ont une certaine importance en tous les cas. À l'époque, quand on envoyait un fret, c'était toutes les semaines, on envoyait la télé, les bobines de film, etc., qui étaient développées à l'agence, et c'est l'agence qui choisissait, le rédacteur en chef, qui choisissait ce qui allait être diffusé.
Donc vous ne voyez pas vos clichés, contrairement à Louaïd, par exemple,
non,
qui
choisit... Non, mais même sur le moment. On avait une bobine de 36 poses, donc... voilà, on a envoyé les légendes et de ce qu'on avait fait, et eux, ils choisissaient après. Ça n'avait rien à voir, oui.
Et ça paraissait combien, une semaine après?
Ça dépendait du bouclage des journaux, mais oui, ça paraissait assez vite, mais il y avait un temps de réflexion. Si l'envoi était, si c'était vraiment des images très importantes dans le sujet, on essayait de trouver un avion ou quelque chose comme ça pour envoyer le soir, mais c'était compliqué, quoi. Souvent, on donnait à un passager... Parce que c'était trop passé par l'officiel des choses, c'était pratiquement impossible. Donc on filait les bobines à un pilote et le motard de l'agence venait les chercher, les réceptionner. Ça pouvait se passer très vite si nécessaire, mais à nous de nous débrouiller. On ne pouvait pas envoyer officiellement les choses, c'était très complexe.
Louaïd, comment est-ce que vous envoyez vos photos à votre agence depuis l'Ukraine?
Alors là, en ce moment, on a l'Internet, heureusement... Et je fais le reportage tous les jours, je fais des trucs différents, et le soir quand je rentre chez moi, je fais une sélection large et j'appelle Jacques en vidéo, on sélectionne le photo final et après je l'envoie direct à l'agence, et le lendemain matin à 16h du mat, les photos ils sont sur le site.
Vous avez besoin de l'œil de Jacques pour choisir les photos?
Ah là, ça, on parle de ça, c'est... quand j'étais en Syrie, en fait, c'est vrai, j'ai commencé à faire des photos en Syrie. Mais quand j'étais en Syrie, j'ai pas pris le temps de comprendre ça veut dire quoi un photojournaliste. Ça veut dire quoi un vrai photo. C'est vrai, j'ai fait des photos, mais c'est pas comme la photo que j'ai fait aujourd'hui en Ukraine. En Syrie, on peut dire, entre parenthèses, je fais un peu clic-clac. Mais quand j'arrivais en France, je suis rencontré Jacques. Et c'était vraiment une rencontre formidable pour moi parce que 4 ans et demi d'apprendre avec Jacques, ça veut dire quoi un vrai photo, un vrai cadrage et un vrai couleur dans le photo. Comment on travaille, est-ce qu'on travaille derrière le soleil, devant le soleil, à droite, à gauche, c'est quoi les meilleurs cadres, ça dépend du sujet, bien sûr, mais là, quand je elle est en Ukraine, eh ben, ça, je l'ai remarqué direct, la différence de travailler avant en Syrie et d'apprendre avec Jacques.
Ça, la mise en pratique, quoi.
Ouais, oui. C'est quoi le vrai photo du journalisme.
Il faut d'abord être journaliste.
Ouais. Jacques, c'est un bon élève, Louaille ?
Non, pas du tout. Oui, il apprend vite, oui.
Ouais. Ouais. Il maîtrise aussi. Mais il a l'essentiel, on peut dire, l'œil ?
Ah oui, l'œil, ouais. Il l'a depuis longtemps. Ouais. Après, il y a la mise au service de l'œil suivant les choses qu'on lui demande, bien sûr. Oui. Mais il progresse à une vitesse grand V. Mais...
Alors Jacques, vous, on va revenir un petit peu avec vous. Vous avez bien sûr fait des scènes de conflits particulières, la guerre du Kippour, des choses comme cela. Et puis vous avez aussi photographié des célébrités. Alors aujourd'hui, on dirait plutôt des people. Gainsbourg, Birkin, par exemple. Le mariage de Johnny et Sylvie, c'était pas hier, hein. Vous étiez aussi à Woodstock, ça nous fait rêver, en août 1969, insouciance et joyeuseté d'un côté, et puis la guerre et la mort de l'autre, c'est votre vie ça?
En tous les cas, ça l'était fortement à cette époque-là, mais le métier de photojournaliste, c'est pas simplement d'aller faire la guerre, c'est de pouvoir faire une première de cinéma, aller photographier en voyage le général de Gaulle, ou des choses de ce type, enfin, un close-up avec Johnny et Sylvie, puisqu'ils sont de cette époque, ou Gainsbourg, c'est sûr. Mais il faut être capable d'être ouvert, parce qu'il y a un aspect très photographique, si on fait les people, c'est un aspect très photographique, tel qu'il est pratiqué, en plus, à l'heure actuelle, c'est vraiment particulier. Mais à cette époque-là, il fallait être multicarte, hein, quand même. La guerre, c'est un choix. On n'oblige jamais quelqu'un à aller faire des photographies de guerre. Donc, il y a plusieurs manières d'aller couvrir une guerre, en tous les cas. Et c'est chacun son chemin pour y aller, quoi. Mais ce n'est pas obligatoire, hein.
À l'époque, vous travailliez pour une agence ?
À l'époque, je travaillais d'abord aux Reporters Associés, ensuite à Gamma et ensuite à Life, aux États-Unis. Là, j'étais plutôt sur des trucs au Moyen-Orient, Septembre Noir, le Liban, enfin des choses comme ça. Mais avant, Vietnam, c'était Reporters Associés. C'est différent, Apis aussi. On grandit pas, il y a des âges différents, donc on peut changer de boîte ou de diffusion. Et j'ai travaillé pas mal avec les Russes. Avec les Russes en face, quoi. Que ce soit... la Tchécoslovaquie, quand ils ont envahi la Tchécoslovaquie, ou après, quand ils sont allés se coltiner les Afghans aussi, c'était pas facile.
Oui, se coltiner.
Ah oui, c'est oui. Ça, parce que les Afghans, c'est... Mais c'est un petit peu comme certaines... L'Ukraine, c'est encore différent, je pense, mais on peut marcher 3 jours, 4 jours, et puis rien voir. Photographie des combattants en train de se balader d'un endroit à l'autre, c'est tout, quoi. C'est très éprouvant. Physiquement, parce qu'on n'a pas le même entraînement, mais quand ils ont la chance de détruire un hélicoptère russe, ben voilà, on fait une série. Mais des fois, on a passé 3 semaines pour faire une série, et le reste du temps, c'est difficile.
C'est pour ça que vous organisez et que vous avez suivi au jour le jour Louaille sur le terrain. Vous trouvez que le photojournalisme, et en tout cas les clichés dont on est abreuvé actuellement, hein, sur ouais. L'Ukraine, ça a évolué et plutôt dans le bon sens par rapport à la période Vietnam ou Afghanistan, par exemple?
Je pense qu'on était, en tous les cas, le Vietnam, on était très libre. Et je crois que c'était la seule histoire dans l'histoire du photojournalisme où on pouvait écouter un débat le matin, un débriefing le matin, prendre un hélicoptère et se barrer tout de suite, quoi. Maintenant, ça n'existe plus, parce que même en Ukraine, il y a un phénomène médiatique d'un côté, puisqu'il y a 3500 ou 3200 personnes qui représentent la radio, la télévision, enfin différents médias dans le monde, mais tout est surveillé par l'armée, ce qui est normal.
C'est sûr.
Les positions, les choses comme ça. À l'époque, non, débriefing le matin, ils disaient, on se bat dans tel endroit et pof, vous pouvez nous débarquer.
C'était plus libre.
Ah, c'était totalement libre, oui. Ouais. Après, c'est fini, hein. Que ce soit la guerre d'Ipkipour, des choses comme ça, il fallait contourner l'officiel, c'est-à-dire faire cavalier seul pour pouvoir passer, sinon ça ne marchait pas.
C'est un petit peu la démarche de Louaille.
Complètement, elle l'est pour deux raisons pour lui, je crois. Une raison financière, c'est évident, parce que la guerre, ça coûte cher, ça ne rapporte souvent pas beaucoup d'argent, on ne gagne pas sa vie forcément avec ça.
C'est risqué également, quand même.
On risque sa peau.
Oui.
Qu'est-ce que vont chercher les gens sur ce genre de choses? La photographie ou la caméra, on est obligé d'être près du conflit lui-même, enfin de première ligne, pour avoir des images qui soient représentatives de quelque chose. Mais tous les journalistes ne font pas, hein, sur place. Il y a quoi? Peut-être 150 mecs qui se baladent en Ukraine pour faire des photos ou des caméras. Les autres, non. Ils obtiennent des informations autrement.
Louaille, vous avez, je suppose, vu des scènes terribles. Il y a des choses dont vous ne parlerez pas?
Oui, il y a des choses que je ne parle pas. Il y a des photos, je le sors pas. Et c'est vrai, j'ai vécu des choses, mais j'ai déjà vécu aussi en Syrie. C'est la même chose. Et aujourd'hui, on parle de l'Ukraine et la Syrie, mais derrière c'est la Russie, c'est les mêmes dictatures aussi. Les Russes, ils sont venus en Syrie en début de 2013-2014 et ils sont toujours là-bas. C'est pour ça que moi j'ai quitté la Syrie en 2016 parce que l'armée syrienne, ils sont pris Alep et moi j'étais obligé de partir, je ne peux pas rester. Et aujourd'hui, en Ukraine, aussi, le bombe, et c'est la même chose. C'est des choses, c'est le même son, on peut dire. Je le connais et c'est flippant. On ne peut pas mentir, c'est flippant.
Oui, c'est le cas de le dire. Ce sont les mêmes, c'est-à-dire ce sont les Russes, effectivement, qui là sont vraiment devant, alors qu'en Syrie, c'était un petit peu plus caché. Vous avez d'ailleurs participé à quelques émissions, quelques reportages pour une radio, pour une télévision syrienne, oui. Télévision d'opposition et de résistance, je précise.
Oui.
Comment ça s'est passé?
Le journaliste, on peut dire, dans un pays arabe, ils sont pas arrivés à faire des demandes pour aller en Ukraine parce que les systèmes pour avoir un visa, il était bloqué par quand il y a la Russie, ils ont envoyé une bombe dans un centre à Kiev et ce centre, c'est le centre de, on peut dire, l'administratif des pays et après ça bloquait vraiment beaucoup beaucoup de choses dans le pays et c'est pour ça aussi le problème de banque, il y a beaucoup de banques. Ils sont bloqués, il y a beaucoup de banques, ils ont des liens avec la Russie. Et aussi, on n'oublie pas, il y a beaucoup de groupes, des actes, ils attaquent les pays dans le formatique. Et du coup, beaucoup de journalistes arabes, ils ne sont pas reçus des
accréditations,
accréditations et visas. Et c'est pour ça C'était un avantage pour moi de travailler avec plusieurs chaînes arabes et c'est pour ça que j'ai embroché avec eux et je travaillais avec eux avec une télé syrienne résistance et une télé libanaise.
On imagine très bien votre émotion de travailler sur un média qui aimait et qui travaille en Syrie, évidemment.
Quand on parle notre,
en plus,
parle ton, évidemment, votre langue, c'est plus assez facile, on peut dire.
Alors, Louaï, vous avez sur le terrain contacté, enfin en tout cas été en contact avec des militaires, avec des pouvoirs publics, des personnalités.
Ouais, j'étais à Mykolaïv à peu près 2 semaines avec l'armée ukrainienne. J'ai dormi avec eux, passé toute la journée avec eux. C'était pas mal. Et j'ai gardé le contact avec eux. C'est des gens vraiment très chaleureux. Et aussi, j'étais en contact en direct avec le maire de Odessa, Gendi Trikanov.
Oui, c'est difficile à prononcer les noms ukrainiens. Ouais. Donc le maire d'Odessa, donc qui attendait à l'époque, je suppose, entre guillemets, l'assaut sur sa ville des forces russes, c'est ça.
Exact.
Ambiance tendue quand même, très particulier.
Ouais.
Comment est-ce qu'il vous a reçu?
C'était pas prévu. Et c'est Jacques, un jour, il m'a appelé, il m'a dit... Louaï, il faut que tu prennes contact avec le maire d'Odessa. Et dans ma tête, j'étais... Ah non, mais la maire d'Odessa, je veux le voir. Et personne, il le voit en ce moment. Et il est tout le temps... Il y a 4 voitures. Il roule avec lui.
Avec des gardes du corps et
tu
tout.
Tu ne veux vraiment pas le voir. Et non, je fais une demande. Et je le croisais dans un événement à Odessa. Et j'ai approché un petit peu pour parler avec lui et il y a une dame, il est venu me voir, il m'a dit qu'est-ce que tu veux en fait, et j'ai dit j'aimerais bien de faire des portraits pour le maire d'Odessa et si c'est possible dans son bureau, pas aujourd'hui mais on organise un jour. Et la dame, il m'a filé son carte et lendemain j'ai envoyé un message pour organiser le truc, mais dans ma tête, c'était, il va jamais répondu, mais non, il m'a dit demain à 13h, vous venez à la mairie d'Odessa et on va mettre ton nom sur la porte. Et j'ai allé, j'ai rentré, j'ai fait mon travail et c'était bien, c'était vraiment assez cool et j'étais le seul journaliste à faire ça.
Ce sera des photos qu'on verra quelque part,
ouais.
Qui sont...
Ils sont sur le site de SIPA Press.
De SIPA Press, donc effectivement, un portrait du maire d'Odessa, c'est pas mal, quoi, c'est pas mal. On espère évidemment qu'on croise les doigts pour cette belle ville d'Odessa, pour qu'il n'y ait pas de problème, et puis bien sûr pour toute l'Ukraine et tout ce souci. Aujourd'hui, Louaï, c'est le retour à la paix, un retour à Fort Calquier. Vous avez des projets professionnels?
C'est vrai, le retour, c'est pas facile. J'ai pas encore trouvé l'équilibre, on peut dire. Les sentiments des choses, la vie normale, la routine de tous les jours, de réveiller le matin, faire les mêmes choses. C'est pour ça que je suis parti, parce que je m'ennuie. C'est un truc qui me manque. Un truc qui bouge, il n'y a pas beaucoup en France. On peut dire les derniers trucs, c'était les gilets jaunes. Et je n'ai pas hésité tous les samedis à aller à Paris pour faire les photos. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Et je déteste les routines, en fait. Mais projet dans ma tête, en ce moment de sélectionner les photos, envoyer à tous les... plusieurs festivals en France et à l'étranger et après je suis disponible si il y a des choses à faire comme j'ai travaillé déjà avec l'office de tourisme dans le 04 à Gruau-les-Bains et je suis disponible de faire plein de choses. C'est pas parce que on est journaliste, photojournaliste, ça veut dire on fait que de photos de guerre, on fait plein de choses à côté.
Et donc c'est votre souhait, et en même temps c'est vrai qu'il y a des réussites aussi à ce niveau-là, et c'est peut-être quelque part aussi plutôt réjouissant de photographier la paix et de photographier un pays en paix avec tout le talent que vous avez. J'en ai parlé tout à l'heure. Enfin, un dernier élément avant de clore cette émission, évidemment, je ne pouvais pas passer au-dessus. Je salue tout le chemin parcouru par Louaï Barakat en 4 années. Sa maîtrise de notre langue, tout d'abord. Louaï, c'était pas facile quand vous êtes arrivé en France, vous parliez pas français. Et puis bon, là maintenant, on a vraiment l'impression que ça va beaucoup mieux et ça va aller encore mieux. Et puis, je salue aussi la confirmation de son talent, les liens tissés avec Fréquence Mistral, notamment, qui a accueilli sa première exposition en France. J'en suis très heureux. Et puis aussi l'appui amical et attentionné des Nuits photographiques de Pierre Vert, également Jack bien sûr, le CADAD Manosque, Solène évidemment, et puis aujourd'hui Louaï Barakat suit sa route et nous le rend bien, n'est-ce pas Jack?
Absolument, c'est toujours important de voir quelqu'un qui avance dans la vie.
Oui, et puis vous y êtes pour quelque chose aussi.
On s'est rencontrés grâce à Fréquence Mistral.
Oui, c'est vrai.
Exposition,
aussi.
Ça a commencé comme ça. Et puis, il y a des expériences un peu fortes qui nous lient depuis le début.
C'est une belle histoire et qui est ponctuée aussi par cette émission radio. Merci à tous les deux d'avoir partagé ces instants de vie particuliers, que ce soit au Vietnam, en Afghanistan et puis bien sûr, Louaï en Ukraine et à Alep. Vous avez toujours la Syrie dans le cœur?
Alep. J'aimerais bien retourner un jour, mais j'aimerais bien aussi, parce que aujourd'hui j'ai vu comment j'ai travaillé en Ukraine et j'ai envie vraiment travailler pareil en Syrie, mais je sais j'ai pas la liberté de faire pareil en Syrie.
Faut mais espérer que ça change.
J'espère.
Ouais. Merci à tous les deux, à bientôt et bonne continuation Louaï.
Merci à vous.
Merci.